بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم الدين وبعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب زدنا علما يا كريم، رب زدنا علما يا كريم، رب زدنا علما يا كريم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. من شفاء الإسلام. Nous continuons donc nos hadiths et nos récits concernant الحب في الله, le fait de s'aimer pour Allah. Et la semaine dernière, on avait cité en premier lieu le premier droit du musulman sur nous, de notre frère en islam sur nous, c'est al-haqqu fil mal, le droit de notre prochain dans nos biens. On avait dit que quand on parle du droit de notre prochain dans notre argent, dans nos biens, c'est vraiment quelque chose de spécifique à l'islam. Parce que si on va adopter le mode de vie, on va dire un peu plus occidental, hein, de le monde dans lequel on évolue, il n'y a personne, il n'y a aucun courant, ni politique, ni philosophique ou autre chose, qui va dire que ton prochain a un droit dans ce que tu manges ou dans tes revenus. On est plutôt dans un système où chacun doit travailler, doit gagner, et il doit prospérer, hein, faire en sorte de faire fructifier son argent pour investir, pour vivre avec le plus de confort. Et ça va se limiter à ça. C'est la conception du dunya, la conception des choses dans notre société. Subhanallah, il n'y a que dans notre dîn où, comme on a vu la dernière fois, lorsque les, subhanallah, les savants, ils disent qu'il y a deux niveaux, il y a deux niveaux de huquq dans les biens concernant notre frère en islam. Le premier niveau, c'est quand il te reste de l'argent excédentaire, donc à la fin du mois, si tu as un peu d'argent, il est de ton devoir d'aller vers ton prochain et de lui venir en aide sans que la personne n'ait besoin de te demander. Et ça, c'est le plus bas degré de hubbu fillah, aimer son prochain, et le droit de ton prochain dans tes biens. Et le summum, le plus haut degré, c'est conformément au verset, وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصًا, c'est de faire abstraction de nos propres besoins et de venir en aide à notre prochain. Alors ça, c'était vraiment le niveau qu'avaient atteint les sahaba, ridwanullahi alayhim ajma'in, ce couple qui préférait ne pas manger et ne pas donner à manger à leurs enfants pour honorer un frère en islam. Ça, c'est vraiment les plus hauts degrés de foi. On avait dit la semaine dernière, la deux semaines, que ces sahaba, ils ont atteint les plus hauts degrés de iman. Ils ont eu l'attestation qu'Allah Azza wa Jal était satisfait d'eux, parce qu'ils étaient vraiment, ils avaient atteint le summum concernant le culte, les ibadah, les actes d'adoration, mais ils avaient atteint également le summum concernant le akhlaq, concernant le comportement, concernant la relation humaine. On insiste beaucoup de nos jours sur l'humanisme. Et voyez là, il y avait le Téléthon là, il y a quelques jours, il me semble, d'accord. Là, on voit que les Français sont toujours généreux, ils continuent à donner malgré la crise. Mais le Téléthon, c'est quoi? Tu donnes une fois par an. Tu vas donner quoi? 10, 15, 20, 30 euros. Là, on parle pas de donner une fois. Bon, bien sûr, si quelqu'un veut participer, ça c'est une excellente chose, une très bonne action, il n'y a rien à dire. Maintenant, nous, qu'on parle d'aimer son prochain pour Allah et al-haqq fil mal, le droit. Le droit de notre prochain concernant les biens, c'est faire en sorte que régulièrement on vient en aide aux familles musulmanes. Vous savez, j'ai connu des gens, subhanallah, subhanallah, al-Madina, des personnes qui avaient des moyens, donc c'était des personnes, des familles très aisées, et durant, on va dire de manière plus spécifique, durant le mois de Ramadan, ces personnes assuraient la nourriture pour toute une famille. Ils assuraient la nourriture, les denrées pour une famille entière, une famille nombreuse. C'est-à-dire que le soir, ils allaient près de la maison de ces gens-là, ils attendaient qu'il fasse nuit pour que les gens ne voient pas, donc c'est avec le maximum d'ikhlas, de sincérité, et ils allaient voir ces personnes, ils ouvraient leur coffre, et subhanallah, avec tout ce qu'il y a, tout ce qui est nécessaire comme denrées. Et cela pendant un mois. Maintenant, si d'un regard extérieur, d'un regard d'une personne qui n'a pas la foi, se dit oui, mais il est en train de gaspiller son argent, dilapider ses biens, il aurait pu garder, il aurait pu économiser, acheter telle chose. Mais quand on analyse cette action avec les yeux du iman, avec le iman, c'est-à-dire les yeux du cœur, avec le iman, on se rend compte que c'est cela, les gestes les plus proches, les sahaba, ridwanullahi alayhim ajma'in, exactement ce qu'Allah Azza wa Jal attend du croyant. Et là, c'est là qu'on se remet un petit peu en question, parce que on a compris que être un bon croyant, c'est les cinq piliers. Certainement, ça c'est la base. Mais en plus des cinq piliers, subhanallah, quand on voit déjà la zakat, et également, il y a un aspect, hein, dans le somme de Ramadan, il y a la relation humaine. On va dire dans la salah, c'est une relation directement avec Allah. Dans la zakat, il y a l'aspect humain. C'est venir en aide à son prochain. Et par analogie, il y a ce rouh. Comment on pourrait dire ça? Il y a l'âme de la zakat, c'est ça. On va dire l'âme de la zakat. Ce qui fait bouger la zakat vraiment, c'est le pas qu'on fait vers son prochain. Ça, c'est le quota obligatoire. Maintenant, le croyant qui met en pratique la zakat, qui donne la zakat tous les ans, comment est-ce qu'il doit vivre la zakat? Il doit intégrer le fait que mon prochain, c'est mon frère. Et que lorsque je viens en aide à mon prochain, que ce soit par le biais de la zakat ou la sadaqa, ce qui n'est pas obligatoire, en fait, c'est lui qui est en train de m'aider. Vous voyez la philosophie qu'il y a dans la zakat? C'est lui qui est en train de m'aider. Parce que en payant la zakat, alhamdoulilah, je me protège, premièrement, des châtiments de l'au-delà. Parce que tout le monde connaît les hadiths, les mises en garde sévères contre celui qui ne donne pas, qui cumule, qui amasse l'or et l'argent, et qui ne donne pas le jour de Qiyamah. Quelles seront les conséquences? Déjà, quand je vais voir quelqu'un, hein, qui n'a pas les moyens et qu'il prend ma zakat, déjà, je sais qu'alhamdoulilah, je me suis protégé de ce azab. Donc, j'ai besoin de mon prochain. On a l'impression que, bon, d'ailleurs, zakat, aujourd'hui, il va manger, il sera content. Comme si que nous, on est un grand seigneur, là, on va aider les gueux. Là, wallah, c'est lui qui t'aide. C'est lui qui est en train de t'aider. Parce que par le biais de ce geste, Allah Azza wa Jal t'épargne le châtiment de manu'u zaka, de celui qui ne donne pas la zaka le jour de Qiyamah. Et en plus, on est également conscient que quand je donne la sadaqa à mon frère en islam, quand je donne la sadaqa, mis à part les récompenses, les hasanat qu'il y a, qui veut dire que si lui n'est pas là, je ne peux pas avoir ses récompenses. Sinon, à qui je vais donner zaka? À qui je vais donner la sadaqa? S'il n'y a aucun pauvre, il n'y a personne pour apprendre, comment est-ce que je vais me rapprocher d'Allah par le biais de mes biens, par le biais de mon argent? Également, on sait que quand quelqu'un donne la sadaqa, ça protège des balas, ça protège des mauvaises choses. Et quand on donne la sadaqa, également, j'ai écouté un khutbah de Shuraim, Allah yahfadhu, il parlait du ayn, il parlait du mauvais regard, le nazar, comme on appelle ici, le mauvais regard. Il disait que, il parlait des couples, hein, il dit qu'une des meilleures façons pour protéger un couple, protéger un ménage, c'est al-ikthar ou min al-sadaqa. C'est donner beaucoup de sadaqa, entre autres, tout ce qu'il y a comme récompense, mais ce qui nous intéresse, c'est que ça protège également des mauvais regards. Donc quelqu'un qui a des biens et tout, mashallah, s'il donne un sadaqa régulièrement, inshallah, il ne sera pas atteint par le mauvais œil. Même si quelqu'un le regarde, hein, de manière mal intentionnée, comme ça existe, un regard envieux, jaloux, il y a le regard de celui qui n'a pas la foi sur le destin, c'est ça le regard le plus dangereux. C'est pour ça aussi que compléter les six piliers de la foi, c'est un bien pour nous et c'est un bien pour le mujtama', pour toute la société. Parce que si chaque personne avait intégré la notion de taqdir, de destin, et on avait développé la qana'a, la satisfaction de ce qu'Allah nous a accordé, ben il n'y aurait pas de jalousie et on ne serait pas envieux les uns envers les autres. Et donc, on ne ferait pas du tort à notre prochain. Parenthèse, quatrième parenthèse, analysez la sorcellerie, al-sihr. On avait dit que c'est un des péchés qui revient le plus souvent. Malheureusement, c'est un des fléaux de notre société. Le point de départ de la sorcellerie, c'est quoi? Il y a deux choses. Soit la vengeance, soit la jalousie. Oui ou non? Soit la vengeance, soit la jalousie. La vengeance, on ne va pas en parler, mais la jalousie, pourquoi je vais faire du mal à mon prochain? Parce qu'il a eu un boulot, moi je n'ai pas eu de boulot. Parce qu'il s'est marié avec Fatima, alors que Fatima m'a refusé, on va dire m'a jeté. Et ainsi de suite, parce qu'il a ça, moi je n'ai pas. Donc, al-hasad. Si on a, et qu'est-ce qui fait qu'un homme est jaloux? C'est à partir du moment où il n'a pas conviction que ce que tu as eu là, c'est ton rizq, c'est ton rosé comme il dit. Ce qui t'est prédestiné ne peut pas t'échapper. Si Allah a prédestiné pour toi telle femme, telle quantité de rizq, tel salaire, tel travail, c'est pour toi ça. Le monde entier peut se réunir pour t'empêcher de l'avoir, tu l'auras. Donc si déjà j'ai pu résoudre le problème de manquement de confiance en Allah, sur le fait qu'Allah c'est lui qui donne, c'est lui le pourvoyeur et que moi je dois être satisfait, ben on va éradiquer le problème de la jalousie. Et si on arrive à éradiquer le problème de la jalousie, on a pu traiter Subhanallah, on a pu traiter en profondeur le problème du sihr, le problème de la sorcellerie, chose qui touche malheureusement énormément, énormément de gens. Il y a eu une époque où on avait parlé de ça il y a très longtemps, un peu en exagérant, hein, comme on aime bien le faire parfois, dit qu'on pourrait peut-être dire que la moitié de la population est atteinte et l'autre moitié qui fait le mal à ceux qui sont atteints. Subhanallah, tellement il y a des cas de personnes concernées par ce fléau. Donc, à la base, si on peut éradiquer la jalousie, on va régler partiellement le problème du sihr de la jalousie. Maintenant, il restera le problème de vengeance. Ah aussi, rôde pas des ordres. Hein, fais pas du tort à ton prochain. Et puis, il n'y aura pas de retour de bâton. Quoique, on ne cautionne pas le retour de bâton. Hein, ça ne veut pas dire que la personne est en droit. Là, wallah. Mais déjà, si quelqu'un a un akhlaq parfait, si tu as un comportement de croyant, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam agissait avec les gens, comme les sahaba agissaient avec les gens, imaginez que quelqu'un développe al-hubbu fillah. Ce qu'on entend expliquer. Que tu as un tel comportement que c'est toi qui vas vers ton prochain. Qui c'est qui te veut du mal? Si tu as un tel comportement, tu deviens une crème, on va dire un castor, d'accord? Qui c'est qui te ferait du mal? Personne ne te veut du mal. Je connais des gens, ici à La Réunion, hein, mais c'est des personnes âgées. Hein, il n'y a plus beaucoup de jeunes comme ça. C'est des qualités que nos grands-parents avaient, ça. Et les anciens, ils ont encore. Et ça se perd. Parce que nous, on vit dans un monde... On a été formé comme ça, formaté. On a été formaté. Il y en a qui ont maté, mais nous, on a été formaté que la culture du gain, pas du gain, gagner... Hein, vous savez, il y en a qui disaient un certain temps, travailler plus pour gagner plus, vous rappelez, et ainsi de suite. C'est-à-dire gagner, avoir plus d'argent et être égoïste, être égocentrique. Ce qui compte, c'est mon portefeuille, c'est mon PIB. Mon PIB, c'est mon tout ça. Mon pouvoir d'achat, ça c'est le plus important pour moi. D'accord? Alors que les anciens, il y avait encore ce karam, hein, cette générosité, cette grandeur d'âme qui fait que on va aider quelqu'un. Petite parenthèse, la 12e, j'espère que je ne perds pas le fil. Il y a une personne qui a fait un petit travail pour moi avant-hier, il raconte pas ma vie, mais petite expérience personnelle, et je lui devais 20 euros. J'avais prévu, je lui donne 20 euros. Il a fait un travail de 1h30. Donc, correct. Et au moment de lui payer, il dit non. Je dis comment ça non? Il dit non, j'ai l'intention de faire un khidma. Il dit non, là, ça ne marche pas ça. Il dit sinon la prochaine fois, il ne m'appelle plus pour travail. Il a dit non, j'avais l'intention de le faire, ne me mets pas dans la difficulté. On a accepté, moi j'ai accepté. Après, je te dis que subhanallah, il y a encore des gens comme ça. Il y a encore des personnes qui, c'est pas par rapport, c'est moi ou c'est... Qui, m'importe, hein, mais qui ont cette grande dame. Parce que sinon, de nos jours là, tout ce que... Tant qu'on peut gagner, on gagne. Parce que quand quelqu'un il a vu un billet bleu, il a vu le billet de 20 euros, là, il sait exactement qu'est-ce que ça lui apporte. Alors que quand tu as dit, non, c'est pour toi, je fais ça pour Allah, c'est un service, la personne de Jazakallah me dit, bon, ben, le Jazakallah, il est bien, mais c'est pas avec ça, mais c'est un bazar. C'est pas que le Jazakallah, mais il a acheté tomate, mais il a acheté mes oignons, mais il a acheté la viande, et ainsi de suite. Yani, on est devenu tellement rationnel, tellement cartésien, et l'esprit finit tellement carté aussi, ce qui fait qu'on a oublié ses valeurs. Ça, c'est l'humanisme. Et donc, je connais des gens, une personne âgée, il a une telle générosité, une telle grandeur d'âme, c'est des gens tellement gentils qu'on voit d'un regard extérieur, et parfois, même moi, Allah me pardonne, parfois, j'ai l'impression, il dit, ben, Bouga est trop bête. Il dit, il est bête. De moi, il fallait du temps. N'inquiète pas, oh, pas grave, il sourit. Mais il est tout le temps gentil. N'importe quelle personne a besoin d'aide ou de l'argent, il donne, même si lui-même il est ennuyé. Je connais des gens comme ça, enfin, particulièrement une personne. Et à un moment donné, on finit par se dire que cette personne-là, soit elle est naïve, que n'est pas la valeur de l'argent, ou la personne est bête, ou la personne est un petit peu retardée, mentale. Là, wallah, rien de tout ça. Rien de tout ça, c'est de la gentillesse, grandeur d'âme. Ça, Inch'Allah, c'est des gens du paradis, ça. Si avec ça il fait ses 5 piliers, etc. Un tel akhlaq, un tel comportement, subhanallah. C'est des gens qui, s'ils voient une personne en difficulté, tout de suite quand on dit son cœur tombe, il donne. Même s'il n'a pas beaucoup pour lui-même, subhanallah. Il y a des gens encore comme ça, dans les anciennes générations. Dans les nouvelles générations, inshallah, on sera ces gens-là. Si on sait faire revivre ces sunnans, d'accord. Mais vraiment, c'est ça être un croyant. Et quand on dit faire revivre la sunna, mettre en pratique la sunna, la première chose qui flash pour nous, c'est mettre en pratique la sunna, mais c'est acheter un grand kafni. Quand même, Mounsa Hadj amène un grand kafni, un bonnet, Moussa laisse mon barbe bien pousser, et ainsi de suite. La sunna, mon petit tasbi, tac tac tac, qui sait bouge la main, qui sait, hein? C'est moi le bouzrouk, I'm a bouzrouk man. C'est ça la sunna. Pour moi, c'est ça être un bon croyant. Combien de personnes avec la panoplie, je ne sais pas si c'était ici ou ailleurs, on disait, si on met tout ça, mais que dans le fond, on n'a pas les qualités d'un croyant, ce n'est pas la panoplie du musulman, c'est le déguisement. Tu dis, enlève ton déguisement, Halloween est fini là, mon frère. Enlève, redeviens hypocrite. Arrête, enlève ton déguisement. Regarde, tu n'aides pas ton prochain, tu te fous royalement. Si ton voisin, il a quelque chose, il n'y a pas quelque chose. Il y a des gens, enfin, je ne veux pas rentrer dans le machin, il y a des gens qui se prétendent être religieux, mais en termes de relations humaines, c'est zéro. Non, c'est fort. Il peut avoir n'importe quelle personne proche ou éloignée dans difficulté, dans un problème. Pour la personne, moi, je me fais mes salats, mon dhikrullah, ma tilawat al-Qur'an, je suis au premier saf et tout. Après, tac, quand je rentre à la maison, quand je ferme ma porte, oubliez-moi. Quand je ferme ma porte, halas, je ferme mon cœur, je ferme tout, mes oreilles, mes yeux, j'entends pas les problèmes de la Oumma, je ne vois pas les problèmes de la Oumma. Du moment que j'ai fait mes prières, je suis le meilleur croyant et pour moi, je suis persuadé que j'ai ma place déjà au Jannah. Alors qu'on a loupé, on a zappé une grande partie des valeurs de notre dîme, c'est al-hubbu fillah. Et voyez comment la société à Madina s'est construite. Une des plus grandes actions que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait fait et qui est restée dans l'histoire de l'humanité, mais que les historiens ne mettront jamais en avant. Pourquoi? Parce que l'histoire est manipulée. Vous savez que l'histoire, vous le formatez, vous l'arrangez pour formater l'esprit des gens. Donc, à moins qu'un jour on ait des mu'arrikhin, des historiens d'un certain niveau, dans le monde musulman francophone, je veux dire, qui peuvent mettre en avant, qui peuvent écrire des ouvrages sur Bina al-Mujtama' fil Madina, à propos de la société, comment le Prophète a bâti cette société idéale, idyllique, on pourrait dire, à Madina Munawwara. Et une de ses actions phares, c'était al-Mu'akhat. Et al-Mu'akhat, on ne le retrouvera dans aucune autre civilisation ni religion. C'est décréter que le croyant est réellement le frère de son prochain. Et c'était ce hadith là qu'on s'était donc un petit peu attardé. Non, on ne s'était pas attardé, on l'avait juste cité en conclusion, si je me rappelle bien, et on avait dit qu'on allait développer la prochaine fois. Justement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsque donc il a émigré à Al-Madina, voilà, il avait décrété que chaque Muhajir est le frère d'un Ansar, et donc il avait fait le mu'akhat, le lien de fraternité entre Abdurrahman bin Auf radiallahu anhu et Sa'ad ibn al-Rabi' radiallahu anhu. Abdurrahman, c'était Makki, le Muhajir, et Sa'ad ibn al-Rabi' radiallahu anhu était le Ansar, l'habitant de Al-Madina al-Nabawiyya. Et donc, on avait cité ça la dernière fois, Sa'ad a proposé à Abdurrahman bin Auf de lui accorder une grande partie de ses biens. C'est pas que je te viens en aide, c'est pas que je te donne un petit coup de pouce pour démarrer, je te donne une grande partie de mes biens, c'est pour toi. Alors que peut-être que Sa'ad, depuis des années, il travaille, mashallah, il a obtenu un capital, on pourrait dire, mais s'il y a un frère en islam qui est là, il lui donne une grande partie de ses biens. Il avait également deux épouses. Sa'ad bin Rabi' avait deux épouses. Il a dit à la personne, choisis celle qui est la plus belle, je lui donne le talaq, le divorce, et après, tu vas prendre cette personne dans ton mariage. C'est vraiment des qualités extraordinaires. Et là, on voit également, on avait dit, regardez le karam, la générosité à la base. Ça, c'est vraiment hubbu fillah. Donner tout à son frère ne veut pas dire qu'on va faire ça de nos jours. Non, je veux dire comment, quels étaient les sentiments à cette époque. Quand on disait que c'est mon frère et qu'il est dans le taklif, il a des difficultés. Il a quitté Makkah, il est arrivé à Madina, il n'a rien. Alors que là-bas, les Mekwa étaient des commerçants. Ils avaient les moyens, ils avaient l'argent. Arriver à Madina, c'est compliqué. La Madina, ça tourne pas trop, toi, du commerce, ça tourne plutôt, toi, de. Oui, barakallahu fik, autour de l'agriculture. Ils sont déphasés. C'est comme si que, je sais pas moi, si on a une profession, quelqu'un il est mécanicien, il va à un endroit, il dit ben il faut faire plombier maintenant. Il dit attends, mais c'est compliqué, je sais pas faire ça, j'ai besoin d'un temps d'adaptation. Bref, des commerçants qui arrivent et qui doivent travailler la terre, c'est pas simple, parce que le commerce n'était pas extrêmement développé à Madina comme il était à Makkah. Et en plus, pour faire la hijra, ils ont dû quitter Makkah discrètement. Ils ne pouvaient pas sortir avec des caravanes, avec leurs biens, etc. Non, il fallait sortir la nuit sans qu'on les voie et tout abandonner. Et les Mekwa avaient tout volé aussi. D'où la raison de la bataille avant. Sans hésitation. D'où une des raisons de la bataille de Badr. Parce que les mécréants avaient volé l'intégralité des biens des musulmans. Il fallait récupérer Il fallait récupérer l'équivalent à travers ces qafilas, à travers ces caravanes. Donc, on revient, d'un côté là, cette générosité, et de l'autre côté là, la pudeur aussi. De l'autre côté, la pudeur. Mais cette notion de pudeur, ça, on va garder pour la conclusion de ce chapitre une prochaine fois. Mais juste voyez, quand Abdurrahman bin Auf reçoit cette proposition, c'est-à-dire que là, il arrive sans le sou, il n'a plus personne, on lui donne tout, l'argent et une famille. Il revient le monsieur. Hein. Est-ce qu'il va prendre? Est-ce qu'il va accepter? Là, on voit la pudeur, il dit que barakallahu fik, qu'Allah te récompense, qu'Allah t'accorde la baraka dans tes biens, dans ton argent, dans tout ce que tu as, mais amène-moi vers As-Souq, vers le marché, c'est-à-dire que je vais travailler. C'est gentil ta proposition, moi je vais travailler et je vais essayer, Inch'Allah, de gagner ma vie. Donc là, il y a la notion de pudeur également de la part de la personne qui reçoit et qui prend. Et ça, à travers différents récits, on va voir qu'il y a les deux. Alors, il y avait la citation de Abdullah ibn Umar radiallahu anhuma qui avait dit que il se fut une époque ata alayna zamanun wa ma yura ahadun minna ahq bid dinari wad dirhami min akhihi al muslim. On a connu une époque où lorsqu'on avait de l'argent, on avait des biens, on avait un peu d'argent en main, pour nous, il y avait personne qui avait plus de droits sur cet argent que notre frère en islam. On a vécu une époque où lorsqu'on avait un peu d'argent, on considérait que cet argent qu'on a dans nos mains, celui qui a le plus de droits sur ses biens, c'est notre frère en islam. Et non pas notre propre personne. Alors que nous, si on a gagné quelque chose, on a un peu d'argent, immédiatement on va voir dans quoi on peut investir. On va se faire plaisir. Hein, nous sommes tous des êtres humains. Alors on va acheter quelque chose pour les enfants. Aujourd'hui, papa va aller acheter un grand bac sorbet, on va acheter des chocolats, ainsi de suite. C'est comme ça, nous sommes des insans, des êtres humains. Ce n'est pas un péché. Donner pour sa famille, c'est une bonne action. Mais à cette époque, il voulait se rapprocher d'Allah et il le faisait, subhanallah, de manière extraordinaire par le biais des actes d'adoration, mais il voulait se rapprocher des créatures d'Allah, des serviteurs d'Allah, parce qu'il savait que quand on est proche de notre prochain, de notre frère en islam, Allah Azza wa Jal est satisfait de nous. Et tous les hadiths qu'on avait cités au début, concernant les valeurs et les vertus, les récompenses de Al-Hubbu Fillah, entre autres, la place sous l'ombre du trône d'Allah, c'est la thématique, la place sous l'ombre du trône d'Allah, Azza wa Jal, le jour de Qiyam. Ne jamais perdre à l'esprit que notre objectif, c'est comprendre c'est quoi aimer son prochain Allah, comment arriver à développer cette qualité pour postuler, on pourrait dire, pour avoir cet honneur, cette chance d'avoir un jour une place sous l'ombre du trône d'Allah Azza wa Jal, le jour de Qiyamah, et les sahaba le faisaient. Donc il disait qu'à notre époque, on vivait comme ça. Il continue, « Wa inna » et malheureusement maintenant, on est à une époque, « Fi zamanin ad-dinar wa dirham ahabbu ilayna min akhina al-muslim » Maintenant, on vient à une époque où nos dinars et nos dirhams, nos biens, on préfère nos biens que notre frère en islam. Les savants disent, voyez que déjà à l'époque des tabi'in, Abdullah ibn Umar, c'est les descendants, les petits sahaba, c'est-à-dire fils de sahaba, et à partir de son époque, il y a eu les tabi'in. Déjà à son époque, ils ont constaté qu'il y avait un changement dans les mentalités. Les gens commençaient un peu à s'intéresser au bien, alors qu'à l'époque des sahaba, l'argent n'avait aucune valeur. Pour eux, c'était le frère en islam. C'est pour ça qu'on voit quelqu'un comme Abu Bakr radiallahu anhu, lors de la bataille de, comment s'appelle cette bataille encore, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé pour la première fois aux musulmans, il a dit où est-ce que aura lieu la bataille, parce que c'était très loin, il a demandé aux gens de venir en aide, de fournir ce qu'il faut pour l'armée, et que Abu Bakr radiallahu anhu avait amené l'intégralité de ses biens. Barakallahu fik tabouk. S'il fait un quiz, mashallah, tu remportes un bœuf ou je sais pas quoi ça, hein? D'accord, bataille de Tabouk, il avait amené tout. Umar, il amène la moitié de ses biens. C'est-à-dire, ils savent que ça, c'est pour la communauté, ça. Ils savent que ça, c'est pour la jama'a. C'est-à-dire, pour le groupe, pour les croyants. Donc, ils n'hésitent pas à donner, sachant qu'il y a la récompense, et avec conviction également que plus on donne, plus Allah nous rend. Dans l'au-delà, bien sûr, il nous accorde baraka dans ce qu'on a, la bénédiction et la tranquillité du cœur par rapport aux biens dont on va disposer. Donc déjà à cette époque, il y avait ce changement. Une citation également de Soufiane ibn Uyayna, ça c'est les grandes générations de Tabi'in, Il dit qu'il y a, c'est un autre grand savant, Musawir al-Warraq, Yahlifu Billah, j'ai entendu Musawir al-Warraq, bon ça c'est les tabi'in, c'est peut-être des noms qu'on n'a pas souvent entendus. Il a juré par Allah, Yahlifu Billah, il dit, Ma kuntu aqulu li rajulin, inni uhibbuka fillah, azza wa jal, fa amna'hu shay'an min ad-dunya. Tariq a compris? Allez, 6 mois de quoi d'arabe, il faut quand même un peu de base là. Ma kuntu aqulu, jamais je dirai, li rajulin, jamais je dirai à une personne, inni uhibbuka fillah, je t'aime en Allah. Ça, c'est aimer son frère en islam en Allah. Jamais je ne dirai à quelqu'un, je t'aime en Allah, alors que fa amna'hu shay'an min ad-dunya. Alors qu'en même temps, je ne lui donne pas quelque chose de ce dunya. Que Simon, ça veut dire que ça ne voudrait rien dire. Uhibbuka fillah, je t'aime en Allah, n'aurait aucun sens si, lorsque mon prochain est dans la difficulté, je ne veux pas lui donner. Donc, autant ne pas le dire. Il y a aimer son frère en islam, c'est venir en aide dès quand la personne a besoin de quelque chose. C'est-à-dire que ce n'est pas un vœu pieux. Souvent, on parle d'amour, et moi j'aime mon frère, nous sommes frères et tout, mais ça se limite à la parole. Ça se limite à la parole, dans les actes, dans la réalité, c'est tout à fait différent. Yazid ibn Abdul Malik, hein, il disait également, « Inni la astahyi min Allahi azza wa jal, an as'ala al-jannata li akhin min ikhwani » Jamais, c'est-à-dire que je ne demanderai à Allah, j'aurai honte de demander à Allah Azza wa Jalla, oh Allah, accorde le paradis à mon frère. C'est important ça, de faire doua pour son prochain. Ça c'est déjà un premier pas vers les relations humaines, aimer son prochain. C'est-à-dire que celui qui fait doua, voilà un signe, on va dire vraiment un signe qui est très parlant, qu'on aime notre prochain en islam, c'est quand on fait doua pour lui. Maintenant, analysons nos doigts. Si depuis le début jusqu'à la fin, on fait doigts pour nos revenus, pour la santé, pour les enfants, pour maman, pour papa, pour le travail, pour France-Ukraine et ainsi de suite, et qu'on n'a pas fait doigts pour notre prochain, pour notre frère en islam, c'est que le doigt n'est pas sorti du cœur. Et si le doigt ne sort pas du cœur, c'est qu'on n'a pas vraiment d'attachement. Et là, je pose la question à nos jeunes, combien de fois par jour, à ceux qui ont encore la chance d'avoir des parents vivants, combien de fois par jour vous faites doua pour vos parents? Si c'est pas le cas, ça veut dire que on ne les estime pas réellement. Parce que quand quelque chose vous tient à cœur, hein, ça revient tout le temps dans vos doigts. Quelqu'un qui va passer un examen, là, il va présenter sa maîtrise ou sa licence ou je ne sais pas, son doctorat ou un truc important, d'accord? Et que c'est prévu dans une semaine. Je vous assure, 5 salats par jour, à chaque salat, il fait doua, Allah, accorde-moi la réussite, etc., etc. Si quelqu'un fait la demande sur Aïcha et il gagne la réponse lundi, ben, dans toute son doua, Aïcha, d'accord? Et ainsi de suite. C'est-à-dire que le cœur, hein, il ne vous trahit pas. Ce qui sort du cœur, ça c'est haqq. Ça, c'est vraiment ce qu'il y a. Ça aussi, certains savants disent qu'au moment de mourir, dans la tombe, quand on répond aux anges, c'est vraiment ce qu'il y a du cœur. C'est quand vous avez une éponge, d'accord, vous avez absorbé quelque chose, qu'est-ce qui va ressortir? Si vous avez absorbé de l'eau sale, quand tu perds, c'est pas du jus d'orange qui sort, c'est pas du musc, c'est de l'eau sale. Si t'as passé sur quelque chose de propre, du parfum ou autre chose, c'est le parfum qui sort, d'accord, tout ce qui sort du cœur. Donc, si, pour revenir à ce qu'on disait, si dans mes invocations, je ne pense pas à mes parents, il n'y a pas une place pour mon papa, ma maman de le doigt, c'est que dans mon cœur, là, ils n'y sont pas. Autrement, il y aurait une place pour eux. Comment ça se fait que je fais doigt tout le temps pour mes enfants? Ils réussissent à l'école, ils réussissent à les protéger, ils ne deviennent pas voyous, ils n'y arrivent pas rien. Parce que j'aime mes enfants. Et mon épouse, et Allah, dan barakat, dan bien, c'est que tout ça, c'est important. Certains savants disent que, au minimum, un enfant, quand je dis un enfant, c'est-à-dire 10 ans, 15 ans, 30 ans, 40 ans, 55 ans, hein, tant que les parents sont vivants. Et au minimum, on doit faire 5 fois par jour doua pour nos parents. Sous la formule la plus simple, Rabbirhamhuma kama rabbayani saghira. C'est-à-dire au moins 5 fois par jour. Ça, c'est un fils qui vraiment, il fait doua pour ses parents. Si je ne le fais pas une seule fois, j'ai des questions à me poser sur la place de mes parents réellement dans mon cœur. Donc, pour eux, c'était quelque chose de tout à fait naturel de faire doua pour le frère en islam. Et, énième parenthèse, ça s'appelle en arabe, ad-doua, si j'ai encore l'expression en tête, ala zahril qalbi. Faire doua pour son prochain s'appelle ala zahril qalbi. Ça viendra. Et il dit que quand tu fais doua pour ton prochain, qui connaît la réponse? Qu'est-ce qui se passe immédiatement? Allah accepte ton doua un peu plus fort. C'est-à-dire quelque chose de plus fort encore, plus parlant. Un ange, il dit Amin, Walaka. Toi aussi, Allah t'accorde la même chose. Ajib. Donne-moi Allah, quoi la santé, mon frère en islam, mon telle personne qui est malade, tel problème. L'ange dit Amin, il dit qu'Allah t'accorde la même chose aussi. Subhanallah. Vous voyez que c'est pas dit, bon, on n'a pas de temps, on fait doigt, mais fait doigt que pour moi, ça n'a pas fait doigt pour tout ça, tout le monde là, ou mat là, on a trop de monastères. Combien de temps il s'est à pied là? Besoin d'aller là. Ya akhi, tu fais doigt pour ton prochain, Allah t'accorde ce que tu as demandé pour ton prochain. Tu vois, quelqu'un en difficulté fait doigt, Allah lui accorde la santé, il accorde un travail, une situation, qu'il trouve un travail, qu'il trouve un logement, il trouve une épouse, qu'il puisse fonder un foyer, qu'il s'épanouisse, alhamdulillah, il trouve une stabilité, il trouve sa place dans la société. On a pris du temps de notre quota de doua, de notre temps de doua, pour invoquer Allah pour quelqu'un, mais tu as les mêmes choses pour toi. Allah te donne la baraka, la bénédiction, la protection, les mêmes choses. Subhanallah, vous voyez là, la profondeur de notre religion, comment c'est quelque chose de ajib. C'est magnifique. Et le moindre effort qu'on fait, même dans le cœur pour notre prochain, il y a un retour. Maintenant, quand tu fais vraiment un effort pour ton prochain avec de l'argent, tu l'aides. Allah Azza wa Jalla t'accorde. Il n'y a rien de gratuit, il n'y a rien de perdu. Surtout quand c'est... Il n'y a rien de perdu dans nos relations avec Allah parce qu'il y a les récompenses et Allah, il accorde au minimum 10 fois plus et sans limite en fonction de la sincérité. Mais il n'y a rien de perdu également dans nos relations avec notre prochain parce que tout ce que tu lui donnes, Allah te donne en retour. Et même si c'est que de le cœur, que de le cœur tu lui veux du bien, tu as le bien. Maintenant, quand tu vas lui donner vraiment ou tu vas lui venir en aide, regarde ce qu'Allah va te donner. Regardez ce retour des choses ajib. Et le retour, quand Allah te donne un retour, c'est 1000 fois mieux. Lisons encore un hadith. Excusez-moi, je lisais un hadith sur Facebook encore cet après-midi. C'est pas un hadith rawahul Facebook, mais c'est un hadith cité, quelqu'un mis en statut. Toujours intéressant, un rappel. Le hadith de base, très connu. Celui qui vient en aide à son prochain dans une difficulté de ce monde. La suite, c'est Allah lui viendra en aide dans une difficulté de l'au-delà, du akhira. Les savants disent, est-ce que vous comparez les difficultés de ce monde et de l'au-delà? Il est dans un problème, il n'arrive pas à payer son loyer, ou alors il a une facture à payer, il n'arrive pas, il a un souci. Tu lui viens en aide, tu lui donnes un coup de main, un coup de pouce, il a besoin d'un travail et tout. Ça cause avec le grand patron, il dit, écoute, c'est maman, bon maman et tout, embauche, allez et tout, fais gagner un travail. Alhamdulillah, vous êtes venu en aide à une personne, un proche, ou un frère en islam, ben, le jour de Qiyama, si on est dans une difficulté, Allah Azza wa Jal nous viendra en aide. Voyez le retour. J'ai aidé mon prochain dans une difficulté. Allah m'aide dans une difficulté de akhira, de l'au-delà. Si c'était une difficulté, c'est dunya. Ça vient, ça va. Dunya, il tourne. La roue, il tourne. Mais de l'au-delà, il ne tourne pas. Les plates. Abdul Mahjah, les plates. Il ne tourne pas. Après rien qu'il tourne. Donc, dans l'au-delà, où personne ne peut te venir en aide, ni madame, ni enfants, ni personne, Allah Azza wa Jal va t'aider. Si tu as été proche de ton prochain, tu étais parmi ces gens qui aidaient leurs frères en islam. Hada. Il dit donc, on n'a pas complété, il me semble. Il dit oui, il disait que Yazid ibn Abd al-Malik dit que jamais, ou alors pas jamais, il dit j'aurais honte de demander, oh Allah, accorde le paradis à mon frère. Et on revient vers cette parenthèse, chose que nous on ne fait plus. Quand on dit on ne fait même plus de doigts pour les parents, parfois pour les autres, mais allons, subhanallah, essayons parfois de le doigt, de donner une petite place pour telle personne. Par exemple, pour moi, je prends la place de vos doigts avec cœur, d'accord? Ou Allah accorde-lui le Jannatul Firdaus, c'est plus degré de le paradis. Donc, il dit que pour nous, on avait honte de demander, oh Allah, accorde à mon frère le Jannah, alors que, وَبْخَلُوا عَلَيْهِ بِدِينَارٍ أَوْ دِرْهَمٍ, alors que je fais preuve d'avarice envers lui pour un dirham ou un dinar. Que quand il a besoin de quelque chose, il dit, un petit peu dur, alors on connaît la crise, hein, c'est pour tout le monde. Hein. La conjoncture, elle est telle que venir en aide, là, c'est un peu compliqué. À la fin du mois, repasse. Et quand il repasse, il trépasse. Il n'y a plus rien. C'est-à-dire que je ne peux pas dire, oh Allah, c'est-à-dire que ce serait hypocrite de dire, oh Allah, que de mon cœur, il y a un doigt qui sort pour mon prochain, alors que quand mon prochain, il vient me voir, besoin d'un petit coup de main, il dit, non, ce n'est pas possible. C'est-à-dire, ça, c'est un comportement incohérent. Incohérent. Parce que ce qui sort du cœur, il faut que les membres aussi, ils concrétisent cette volonté, cette bonté. S'arrêter, Inch'Allah. On est à combien de temps là? 34 minutes. On aurait pu continuer jusqu'au coup d'envoi. Quelle heure commence? 22h30. Réunion, c'est quoi? Hein?
Minuit.
Minuit? Ben, je suis en France, non?
Ouais,
Ah, on a 3 heures de décalage alors. Oh, on n'est pas A, on est à l'heure d'été là. Ah, d'accord, ok. Oh là là, Mashallah, ceux qui vont regarder à minuit, ils savent compte combien ça fera demain Fajr. Hein? D'accord. Frère, Inch'Allah, enfin, il y en a qui aiment les causes perdues, qu'ils perdent le temps. Hada. On complétera, on va terminer, on va conclure. L'histoire de Saïd ibn al-As au moment de mourir, et ça c'est bien ça, c'est quand on voit ces gens pieux au moment de mourir, les derniers conseils qu'ils donnent. Je ne sais pas si un jour il y a un savant qui pouvait réunir les derniers conseils, les doléances d'un papa ou des personnes âgées quand ils meurent. C'est des paroles magnifiques. Et c'est là vraiment, on voit qu'est-ce qu'il y a de son cœur, les derniers messages qu'il va dire à sa famille. On voit vraiment le résumé de sa vie. Il dit à ses enfants, « Ya Bunayya, la tafqidu ikhwani minni indakum. » On va dire en arabe, « Oh mes fils, hein, n'abandonnez, ne tournez jamais le dos à mes frères en islam. » C'est-à-dire, comme moi j'ai fait toute ma vie, vous, je vous donne ce flambeau. Quand un papa meurt, il donne à son fils l'héritage, les conseils pour la famille et tout, mais il doit léguer à ses enfants également les acquis de toute sa vie en termes de spiritualité, de akhlaq, tout ce qui faisait l'intégrité, la force spirituelle de ce papa, il doit donner à ses enfants également. Donc il dit, ne tournez jamais le dos à mes frères en islam. Agissez avec eux, ma kuntu ajri, exactement comme moi, je faisais avec eux. Comme vous voyez, vous me voyez comment je faisais preuve de largesse, de bonté envers les autres, faites exactement comme moi, perpétuez cette action. Wasna'u bihim ma kuntu asna'. Et agissez, faites les bonnes œuvres envers notre prochain, comme moi je faisais durant mon vivant. Et n'attendez pas, talab, comme on avait dit l'autre fois, n'attendez surtout pas qu'il vienne vous solliciter. Faites le premier pas. On avait dit que quand quelqu'un vient vous demander, c'est que vraiment, ça le casse intérieurement. Parce que demander là, c'est avilissant ça. C'est vraiment s'écraser. C'est prouver à l'autre que moi j'ai raté, j'ai pas réussi comme toi. T'as réussi, il faut que tu me viennes en aide. C'est vraiment une humiliation presque pour une personne de demander. Et maintenant imaginez quand vous jetez quelqu'un. Non seulement il s'est plié, il a mis de côté toute sa fierté de père de famille pour te demander quelque chose et tu l'as jeté comme je ne sais quoi. C'est que nous on n'a qu'à travailler ou que tu arrêtes de demander. Hein. Comment on a cassé son cœur, subhanallah. Et donc il dit que n'attendez jamais que la personne vienne te demander. Ne laisse pas la personne faire cet effort. Au contraire, toi tu vas vers lui. Comme je l'ai toujours fait. Bil'antiyya qabla la mas'ala. Le don accordé, donné avant Al-Mas'a, avant qu'il demande. Et les savants disent, voyez, à travers ces conseils de Saïd ibn al-As à ses enfants, on voit que dans l'islam, il est important, comme on l'a dit, de perpétuer le akhlaq. Faire en sorte que le papa, déjà, il y a, subhanallah, la notion de qudwa et de mithal. Le père doit être un exemple pour ses enfants. Et il faut que le papa, lorsqu'il fait des bonnes œuvres, fait en sorte que les enfants voient depuis qu'ils sont tout petits. Pour que les enfants, quand ils grandissent, ils intègrent la notion de sadaqa. Il faut qu'ils aient toujours vu que, par exemple, quand papa, il sort de bazar le dimanche, il était acheté toujours 1 kilo d'oignons, 1 kilo de tomates, 1 kilo de pommes de terre. Avec ça, il allait toujours voir telle personne, telle famille que les pauvres, et il donnait. L'enfant, tous les dimanches, a vu ça, quand papa il sort de marche pour rien, il fait ça, ben, il va intégrer ça dans sa vie. Pour lui, c'est quelque chose de tout à fait normal, de tout à fait ordinaire. C'est pour ça qu'il faut faire en sorte que les enfants soient témoins de nos bonnes œuvres, ça va contribuer à leur éducation. Parce que l'éducation, c'est al-qawl, c'est ce qu'on va dire, mais c'est également bil-qudwa, c'est également l'exemple qu'on va donner. Maintenant, si moi je dis, mes enfants, faites ça, hé, maman, fume pas cigarette, hein, ça n'est pas bon. Et moi-même, d'accord? C'est contradictoire, ça ne servira strictement à rien. Donc, important d'enseigner, de donner l'éducation aux enfants, mais également de donner le bon exemple et de faire en sorte que les enfants perpétuent ces akhlaq. Également, on terminera, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam donne ce conseil parmi les devoirs d'un enfant, hein, quand il perd son papa, c'est de faire en sorte qu'il garde, qu'il entretienne l'amitié avec les amis du papa défunt. Si mon père fréquentait telle personne, lorsqu'il meurt, je dois garder de bonnes relations avec les amis de mon père. De cette façon, il n'y a pas de cassure entre les générations. Et dans beaucoup de sociétés, il y a des fractures parce que les anciens ne communiquent plus avec les jeunes. Il y a une fracture. Ce qui fait que l'histoire ne se transmet pas, les valeurs ne se transmettent pas. C'est comme si c'est une nouvelle société qui démarre. Imaginez qu'il y avait cette fracture, que nos parents qui sont depuis les premiers musulmans, la réunion 1870-1875, tous les acquis qu'ils ont eus, imaginez qu'il y avait une fracture et que les jeunes, ils se désolidarisent complètement, ils estiment qu'ils ont une autre culture différente de leurs parents, et ils vont démarrer un autre mode de vie, une autre façon de s'intégrer, c'est qu'on perd l'histoire. D'où l'importance d'avoir des générations qui transmettent le flambeau aux autres, aux jeunes qui arrivent, fait en sorte que l'histoire se perpétue, les bons comportements, les acquis vont se transmettre de génération en génération. D'où l'importance d'avoir muhabba, de garder de bonnes relations avec les amis du papa défunt, pour qu'il n'y ait pas cette fracture. Faut pas que quand les anciens meurent, quand il n'y a plus de vieux, de personnes âgées, qu'il n'y a que des jeunes, il ne faut pas qu'après il y ait une fracture, donc il y a perte de valeur. C'est-à-dire qu'un ancien est décédé, les jeunes, ils vont garder relation avec lui, ce qui fait qu'il y aura toujours des échanges. Et le muhabba va continuer à se transmettre de génération en génération et de famille en famille. Tout ça, c'est maqas, c'est de l'islam. Tout ça, c'est la perfection de l'islam en termes de relations humaines. Mes chers frères, on ne trouvera ça, on ne trouvera de telles valeurs dans aucune autre religion, ni mouvement de pensée, politique, philosophique ou autre chose. C'est vraiment de notre dîn, mais à nous de creuser, à nous de voir autre chose que les actes d'adoration, en plus des actes d'adoration, voir un petit peu ce qu'Allah attend de nous en termes de comportement. Allah nous donne tawfiq à moi premier, parce qu'on est loin, on est loin, loin, loin du compte. On a peut-être un peu de mal, hein, parfois à parler de ça, parce que quand, en général, quand on ne le met pas vraiment en pratique, ça sort difficilement. C'est comme ça, on ne fait pas. Peut-être qu'il y en a ici qui le font. Mais être aussi proche de notre frère en islam, ce n'est pas des choses qu'on a l'habitude de faire, ça. Vous comprenez? C'est pour ça que on découvre en même temps. Hein, à mesure qu'on lit l'histoire des pieux prédécesseurs, comment ils agissaient avec leur prochain, on dit que waouh! Et là, on se prend des claques quand on a dit, on se rend compte qu'on est extrêmement loin, on comprend pourquoi ils ont fait ce chemin, ils sont aussi proches d'Allah Azza wa Jal. Donc, le but, c'est que nous tous, on essaie de méditer là-dessus et de mettre en pratique au mieux. Qu'Allah nous accorde ses qualités. Wa ma tawfiq illa billah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala al-mursalin. Wa alhamdulillahi rabbil alamin. Jazakallahu khair.